Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des personnes en ligne? Si oui, je les salue également. Je ne sais pas si c'est le cas. Belle journée. Oui, il pleut. Il pleut, c'est bien. C'est le printemps aussi. Et puis dans deux semaines.
C'est les vacances.
Et puis dans deux semaines. Perdu là. Oui, c'est Pâques. Donc, c'est les vacances aussi. Voilà, donc, belle journée. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. C'est moi qui dirige les diapos. Oui. Tu peux déjà... Oui, tu peux revenir en arrière, c'est bon. C'est bon. Alors, nous arrivons aujourd'hui au terme d'une série de trois prédications consacrées à la deuxième lettre de Paul à Timothée. Dans la première prédication, nous nous sommes intéressés à ce que Paul dit de lui et nous avons souligné trois idées. Première idée, Paul a amené Timothée à la foi. Il lui porte une grande affection et il a fait de lui l'un de ses compagnons de service. Deuxième idée, Paul est prisonnier à Rome à cause de son ministère. Abandonné par plusieurs, il est dans de grandes difficultés et souffrances, mais mettant sa confiance dans le Seigneur, il ne perd pas courage. Troisième idée, Paul affirme clairement que sa mort est proche. Il est prêt de larguer les amarres, il est prêt de lever l'ancre pour rejoindre son Seigneur après avoir combattu, achevé la course et gardé la foi. Au cours de la deuxième prédication, nous avons exploré en partie les chapitres 2 et 3. Et nous avons trouvé là des exhortations que Paul adresse à Timothée, comme s'il lui adressait une sorte de testament spirituel. Et nous avons souligné que ces exhortations s'adressaient en réalité à chacun de nous, ayant des responsabilités particulières dans l'Église ou pas, dans la mesure où chacun de nous est appelé à être disciple, c'est-à-dire élève de Jésus-Christ. Alors, dans ces chapitres 2 et 3, j'ai choisi à l'époque de ne retenir que trois exhortations, mais je les ai retenues parce qu'elles sont répétées plusieurs fois sous des formes différentes dans ces deux chapitres. Paul recommande d'abord, solennellement et devant Dieu, d'éviter les querelles de mots, les discours creux, contraires à la foi, les bavardages impies, les spéculations absurdes et sans fondement, et il affirme que toutes ces postures conduisent à la ruine de ceux qui les écoutent et les éloignent toujours plus de Dieu en débouchant sur des querelles. Il nous exhorte ensuite à nous présenter devant Dieu en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, qui doit accomplir pleinement son ministère en s'efforçant de bien faire. Et nous avons vu que cette exhortation met en avant l'idée de la nécessité d'un effort pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions, étant entendu, que c'est Dieu qui donne la force et la sagesse nécessaires pour cet accomplissement. Et puis enfin, Paul nous a parlé également des relations interpersonnelles dans l'Église et nous a exhorté à faire tous nos efforts pour cultiver, je cite, « la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur ». Et pour compléter l'arrière-plan de ces relations interpersonnelles dans l'Église, il en a ajouté d'autres, notamment la justice, la patience et l'espérance. Voilà donc résumé à grands traits l'essentiel de ce que nous avons dit au cours des deux premières prédications. Alors nous entrons maintenant de plein pied dans la troisième prédication qui comportera deux parties. Alors, pour aborder la première, je vais lire d'abord au chapitre 2 les 7 premiers versets. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous a été accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier de jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Voilà le premier passage sur lequel on s'arrête. On y trouve déjà le titre de la première partie. L'athlète, le soldat, le laboureur. Première image, donc, pour illustrer la vie du disciple, celle du soldat, et même du bon soldat, dit le texte. Ce qui sous-entend qu'il y a soldats et soldats, des bons et des moins bons. Versets 3 et 4 que je relis concernant le soldat, « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. » Cette image est forcément familière à l'époque à tous ceux qui ont croisé les prestigieuses légions romaines ou qui ont entendu parler de leur campagne victorieuse. Le soldat dont parle Paul prend sa part de souffrance. Et à l'image de ce qu'il a fait lui-même, ajoute Paul, donnant en quelque sorte l'exemple de sa vie. Le soldat dont parle Paul ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Cela signifie-t-il qu'il a vendu tout ce qui lui appartenait avant de s'engager? Probablement pas, du moins en règle générale. En tout cas, l'expression « ne pas s'embarrasser des affaires de la vie civile » fait penser à cette parole de Jésus en Luc 9, 62, laquelle anticipe d'ailleurs sur l'image du laboureur, « Celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Et l'expression « ne pas s'embarrasser des affaires de la vie civile » nous indique que le soldat dont Paul parle a établi des priorités dans sa vie au moment où il s'est engagé dans une expédition militaire. Alors, on pourrait penser que c'est le règlement de la vie militaire qui lui a imposé ses priorités nouvelles. Ce n'est pas faux. Mais une raison d'ordre supérieur lui est donnée. Le soldat dont parle Paul veut donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Alors, la transposition de ces considérations dans la vie du disciple est immédiate et transparente. Le disciple porte le nom de Jésus-Christ et il se réjouit de lui faire plaisir dans son service, même si c'est au prix de certains renoncements à certains aspects de sa vie antérieure. Le soldat a été enrôlé. Son nom a donc été écrit dans ce qu'on appelle le rôle, c'est-à-dire tout simplement une liste. Pareillement, le disciple de Jésus-Christ est devenu son élève. Son nom est d'ores et déjà inscrit dans le livre de vie et désormais sa préoccupation se porte vers des intentions supérieures qui dépassent ses intérêts personnels. Faire plaisir à son maître est devenu sa préoccupation première. Deuxième image pour illustrer la vie du disciple, celle de l'athlète. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles, dit le verset 5. Alors cette image, par contre, non par ailleurs plutôt, est familière à tous ceux qui avaient assisté aux exploits des participants aux Jeux pratiqués en Grèce ou qui en avaient entendu le récit. Une seule chose est dite sur les athlètes, pour remporter le prix, ils doivent avoir respecté toutes les règles. Tout écart entraîne la disqualification et ne permet pas de recevoir la couronne réservée au vainqueur. Paul a déjà mentionné, par ailleurs, cette image de l'athlète et du prix qu'il remporte ou de la couronne qu'il reçoit à d'autres endroits. Par exemple, en 1 Corinthiens 9, on trouve cette même idée. Et au fait, quelles sont les règles que doit respecter le disciple de Jésus-Christ ? Samuel Benetro, que j'ai déjà cité dans l'une ou l'autre des deux prédications précédentes, écrit à ce sujet : les règles ont été fixées par le Seigneur. Ce sont les grands principes et les repères posés dans l'enseignement de Jésus : aimer Dieu et son prochain, renoncer à soi-même, prendre sa croix, se sacrifier s'il le faut pour les autres. Alors il précise évidemment que cette liste peut se prolonger, et il le fait lui-même en ajoutant la fidélité et la loyauté dans la prédication, attention aux prédicateurs, ainsi que la persévérance au sein de la persécution. Troisième image pour illustrer la vie du disciple, celle du cultivateur. Verset 6. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Alors, cette image est probablement familière à tous ceux qui vivaient à cette époque dans un environnement où le secteur primaire et donc l'agriculture était largement dominant. Une curiosité. Faut-il rappeler que les Lévites, dont le service était de s'occuper du sanctuaire, occupation a priori très éloignée de l'agriculture, n'avaient certes pas reçu de territoire, comme les autres tribus, mais seulement des villes, 48 villes, mais ces villes leur avaient été données avec leurs terres attenantes. Donc, pour tout le monde, l'agriculture, ça leur parlait, probablement plus que nous. Deux idées. D'abord, l'idée que le cultivateur travaille dur. C'est lui qui laboure, qui sème, qui sarcle, qui arrose, qui récolte, et plein d'autres choses, dehors et par tous les temps. Ensuite, il doit être le premier à jouir de la récolte. Samuel Benetro reformule ainsi, et il dit, s'adressant à Timothée, mais on a dit dans les prédications précédentes, s'adressant aussi à nous, hein, pas de fruit dans le ministère, sans parler même de récompense céleste, sans s'adonner à la tâche avec la plus grande fermeté et au prix de sacrifice. Là se termine la première partie. Alors, je ménage une transition vers la deuxième. Là, je suis dans une transition. Et cette transition s'appuie sur le verset 2 du chapitre 2 qui est affiché. Je lis. Et l'enseignement, l'ordre, fais attention à l'ordre, il y a des numéros, c'est pour suivre l'ordre. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Je suis dans une transition, là, je le répète. Et ce verset décrit une chaîne de transmission de la parole, qui dans ce verset passe par Paul, premièrement, puis par Timothée, qui a reçu un enseignement de Paul, dit le verset, puis par des personnes de confiance, auquel Timothée devra transmettre l'enseignement qu'il a reçu lui-même de Paul, et ces personnes, enfin, dont Timothée devra s'assurer qu'elles seront à leur tour capables d'enseigner, d'instruire une nouvelle génération, former d'autres personnes encore. Alors, nous nous arrêtons quelques instants sur cette chaîne de transmission de la parole. Certains pensent peut-être que nous sommes là en train d'évoquer une stratégie d'évangélisation et que ce verset concerne les responsables des églises, les responsables des instituts de formation. Ce n'est évidemment pas faux pour ces personnes. Les uns et les autres, responsables d'églises et responsables d'instituts de formation, ont bien sûr et constamment ce verset dans leur boîte à outils de responsables. Ce que je souhaite dire est que cette chaîne générationnelle nous concerne en réalité tous. Tous ceux qui connaissent le Seigneur, vous, moi, évoquez vos souvenirs, sont quelque part dans cette chaîne de transmission de la parole. Chacun a croisé sur sa route tel ou tel, plus ancien dans la foi, qui nous a donné un enseignement de la parole en accord avec nos besoins de l'époque. Ce sont ceux qui sont en amont de nous dans cette chaîne de transmission. Lors de la prédication de janvier, j'ai souligné tout le bénéfice qu'un jeune converti peut trouver auprès d'un croyant affermi qui décide d'en faire son compagnon de service. Mais chacun de nous croise aussi d'autres personnes qui attendent qu'on leur rende un service de témoignage et d'enseignement. Ce sont ceux qui sont en aval de nous dans la chaîne de transmission. Et aujourd'hui, mon propos est de dire qu'il nous faut prier le Seigneur qu'il nous donne la sagesse et le discernement pour comprendre que tel ou tel a été placé sur notre chemin pour recevoir de nous ce service de témoignage ou d'enseignement. Après cette transition, j'aborde avec vous la deuxième partie, la dernière donc, au cours de laquelle nous allons lire quelques versets liés justement à l'Écriture, la parole de Dieu. Alors nous allons nous arrêter un instant sur un verset assez central concernant l'Écriture. Voilà, nous y trouvons le titre de cette deuxième partie. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. J'ai tronqué la phrase, on découvrira la fin de la phrase tout à l'heure. Pour cela, je lis avec vous, au chapitre 3 de la deuxième lettre à Timothée, les versets 14 à 17. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que, depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour, c'est là que j'ai tronqué la phrase, pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors, dans ce passage, on trouve des propos assez connus, touchant à l'exhortation pour Timothée, donc pour nous, de rester attaché à tout ce qu'il a appris et reçu avec une entière conviction. Alors, Timothée, il sait de qui il tient la connaissance des Saintes Écritures. D'abord, de deux femmes pieuses, Loïs et Eunice, respectivement grand-mère et mère de Timothée. Il la tient aussi de Paul, évidemment, le guide attentif et sage, le conseiller expérimenté. Il la tient probablement aussi de l'église de Lystre, où se trouvait Timothée lorsque Paul l'a rencontré et a décidé, on l'a lu, d'en faire son compagnon de service. Alors, au-delà de ces propos, à mon avis, le cœur du passage se trouve dans le verset 15, dans la fin du verset 15. Chapitre 3, verset 15. Parlant des Saintes Écritures, Paul écrit « Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Cette portion de verset renvoie au rôle de l'Écriture dans la compréhension de la personne et de l'œuvre de Christ, laquelle conduit donc au salut par la foi en Jésus-Christ. Elle justifie la distribution autour de nous du texte biblique, sa proclamation publique, mais aussi sa lecture en groupe, croyants et non-croyants réunis dans un cadre amical plus réduit. Le passage se poursuit et trouve, à mon avis, son point d'orgue dans le verset 16, toujours du chapitre 3. « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Samuel Benetrou indique que le poids de ce verset est reconnu par tous. Un verset lourd. Mais qu'il n'est pas sans difficulté, dit-il. Et de fait, dans son commentaire de la deuxième à Timothée, il lui consacre plusieurs pages en revenant, comme c'est la règle, au texte original. Alors, je connais mes limites, je me contenterai de deux observations. D'abord, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et là, je souligne le mot « toute ». Et ensuite, toute l'Écriture est utile pour, comme on l'a dit, enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Nous avons déjà noté, il y a quelques instants, le rôle de l'Écriture dans la marche vers le salut en Jésus-Christ. Mais au-delà de cette marche vers le salut en Jésus-Christ, les quatre verbes cités, je ne vais pas les répéter une troisième fois, les quatre verbes cités semblent indiquer une action utile de l'Écriture sur une période longue de la vie entière. Et notamment, la dernière expression verbale, l'Écriture est utile notamment pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Nous sommes là dans un temps long. Et ce verset justifie la fréquentation régulière de l'Écriture tout au long de la vie. Et probablement, c'est moi qui l'ajoute, dans des cadres variés, d'une lecture personnelle, familiale ou communautaire. On notera, je suis toujours sur le même passage, hein, dans cette deuxième diapositive, on notera que cette fréquentation de l'Écriture a un but qui est précisément indiqué au verset 17 que je relis. Il était parmi les versets que j'ai déjà lus. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La parfaite préparation et l'équipement de l'homme de Dieu pour accomplir toute œuvre bonne, voilà le but ultime. Bon, il va sans dire que lorsqu'on lit « Homme de Dieu », il nous faut aussi lire « Femme de Dieu », bien évidemment, ça pose aucune difficulté. Mais il ne faudrait pas non plus donner à l'expression « Homme de Dieu » un sens restreint, le sens restreint qu'il a parfois pour désigner un homme consacré, mis à part pour un service particulier. À ce sujet, Samuel Benetrou écrit « Il est permis de retenir le sens le plus large ». Tout croyant authentique est aussi un homme de Dieu, également soumis de manière égale, également soumis à l'action salutaire de la parole de Dieu. Bref, la fréquentation régulière de l'Écriture tout au long de la vie concerne tous les disciples, tous les élèves de Christ. Et on peut donc rattacher cette observation à un verset que nous n'avons pas lu dans ces trois prédications, le verset 2 du chapitre 4, où Paul écrit « Je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou pas, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » La deuxième partie, donc, et la prédication sont terminées. Il n'y aura pas de quatrième prédication sur 2 Timothée de ma part, au moins dans un avenir immédiat. Et même si le texte révèle encore quelques pépites que nous n'avons même pas évoquées. Et sans compter, probablement, tel ou tel passage de la lettre que vous auriez aimé entendre citer et dont je n'ai pas non plus parlé. Pour ma part, je trouve que 2 Timothée est une lettre à la fois émouvante et instructive sur le plan de la foi et du service. Dans les jours qui viennent, je l'ai lu au cours des derniers mois un nombre incalculable de fois, mais dans les jours qui viennent, je me propose, pour terminer mon travail, de la relire d'une traite au moins un certain nombre de fois. Et si vous êtes resté sur votre faim à l'issue de ces 3 prédications, eh bien, je vous invite à m'accompagner dans cette lecture. Amen. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. L'enseignement que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront à leur tour capables d'en instruire d'autres, avons-nous lu. Merci de nous avoir inscrits dans la chaîne de transmission de ta parole. Nous te remercions d'avoir mis sur notre route tel ou tel qui nous a donné un témoignage ou un enseignement de ta parole en accord avec nos besoins de l'époque. Nous te prions aussi que tu nous donnes la sagesse pour discerner que tu as placé tel ou tel sur notre chemin pour recevoir de nous ce même service de témoignage ou d'enseignement. Merci parce qu'ainsi tu construis ton Église et que tu nous fais la grâce d'être ouvriers, co-ouvriers avec Christ dans cette entreprise marquée par ta grâce. Seigneur, tu nous as laissé ce matin l'image d'un bon soldat de Jésus-Christ, d'un athlète qui veut donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé, d'un cultivateur qui travaille dur. Seigneur, nous t'apportons notre vie quotidienne. Elle est souvent en dessous des saintes attentes, de tes saintes attentes, mais nous savons que tu nous as aimés tels que nous sommes. Nous te prions pour que nous soyons de bons ouvriers, que nous n'ayons pas à rougir lorsque nous nous présenterons devant toi. Et pour cela, nous nous souvenons de cette autre parole que tu nous as laissée en Philippiens 4, 13. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie, c'est-à-dire grâce à Christ. Amen.